Je vous invite à lire dans l'épître aux Galates. Alors c'est le premier dimanche du mois, comme nous avons la scène, nous voulons axer notre pensée toujours dans le temps d'adoration, de louange sur le salut, la scène et puis aussi dans le temps de prédication. Donc je vous invite à lire en Galates chapitre 3. Nous allons lire les 14 premiers versets. Galates chapitre 3, nous allons lire les 14 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu. Elle nous dit, écoutons-la. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous conduire dans ta parole et de nous éclairer par ton Esprit, afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Que ton Esprit applique ces choses à nos cœurs, à nos vies, et que nous soyons des enfants obéissant à la gloire de Dieu. Amen. La lettre aux Galates, hein, vous pouvez la lire en entier si vous n'avez pas encore fait, mais elle est destinée à des croyants des églises d'une région qu'on appelle la Galatie, et ces églises étaient sous la menace de ce qu'on appelait les judaïsants, c'était des personnes qui disaient qui voulaient ajouter, on pourrait dire, au salut par la grâce, par la foi seule, des œuvres. Hein. Appelez-vous ce qu'il disait en Actes chapitre 15, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc il fallait, oui, le salut par la grâce, il ne le rejetait pas, mais en même temps, il disait qu'il faut ajouter des œuvres. Il faut faire des choses pour avoir la faveur de Dieu. Il faut observer la loi, et particulièrement ici, parfois on voit bien que l'apôtre Paul parle, si on lit toute la lettre, de la circoncision. Alors l'apôtre Paul développe ici une argumentation pour défendre la justification par la foi. Et le chapitre 3 est un long développement de cette question. Dans les versets 1 à 5, l'apôtre Paul fait appel à l'expérience même des Galates en leur posant une série de questions rhétoriques, hein, dont la réponse est évidente à chaque fois, hein, si vous lisez les cinq premiers versets que nous avons lus. Et puis, dans les versets 6 à 9, il donne l'exemple d'Abraham. Les Juifs considéraient beaucoup Abraham et aussi beaucoup Moïse. Et la loi a été donnée par Moïse. Hein. Et Paul cite Abraham parce qu'il est avant la loi. Et qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6 à 9? Eh bien, il exprime que Abraham, qui est le patriarche par excellence, eh bien, a été justifié par la foi. Verset 6, il dit, comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Il dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Hein? Donc, c'est le fait qu'il cru à ce que Dieu lui a annoncé. Et ça, c'était avant, bien sûr, que la loi de Moïse n'existe. Parce qu'Abraham, il existait avant la loi. Donc, il cite ici Genèse 15, verset 6, si vous voulez regarder cela après. Donc, et dans les versets 10 à 14, qui vont nous intéresser ce matin, l'apôtre Paul parle de la malédiction qui repose sur tous ceux qui cherchent une justification par la loi, tous ceux qui cherchent une justification hors de la foi en Jésus-Christ. Et donc, il dit ici, à verset 10 de notre chapitre 3, il va faire appel ici à l'Écriture hein, pour montrer vraiment la malédiction qui repose sur ceux qui cherchent d'une manière ou d'une autre à présenter à Dieu des œuvres pour espérer avoir sa faveur. Et cela nous concerne aussi parce que nous aimons toujours nous justifier, n'est-ce pas? On aime avoir la faveur des autres, hein, que les gens nous apprécient. Et quelque part, je crois qu'on peut avoir la même attitude vis-à-vis de Dieu aussi. On veut être reçu. Et comment est-ce qu'on cherche toujours à être reçu? En faisant des choses. Hein, en faisant des choses. Et on peut, dans la vie chrétienne, aussi vouloir faire des choses pour espérer être reçu par Dieu. Soit pour son salut, hein, les gens qui pensent qu'il faut faire des choses avant d'être accepté par Dieu, ou soit pour même vivre la vie chrétienne. Hein. Et l'apôtre Paul dit ceci ici, c'est très important que nous considérions cela, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et puis au verset 13, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu pour nous malédiction. » Il dit, verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Alors le titre de notre méditation ce matin, c'est « De la malédiction de la loi à la bénédiction par la foi en Jésus-Christ. » De la malédiction de la loi à la bénédiction par la foi en Jésus-Christ. La malédiction repose, dit l'apôtre Paul, en premier lieu sur tous ceux qui cherchent une justification par l'observation de la loi ou par les œuvres. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Alors, qu'est-ce que la malédiction de la loi? Est-ce que la loi de Moïse en elle-même est une malédiction? Est-ce que, par exemple, hein, je prends le fait de ne pas tuer, parce que la loi disait cela, tu ne tueras point, ou est une malédiction? Ou est-ce que le fait de ne pas commettre de l'adultère, parce que la loi dit tu ne commettras point d'adultère, est une malédiction? La loi en elle-même est-elle une malédiction? Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici, parce qu'en Romains chapitre 7, souvenez-vous, il a dit ceci, il a dit « la loi de Dieu est sainte », il a dit plusieurs choses, il a dit en Romains 7, 12 que la loi est sainte, il a dit en Romains 7, 14 que la loi est spirituelle, et puis comme j'ai entendu dans la salle, il a dit en Romains 7, 16 que la loi est bonne. Okay? Elle est sainte, elle est spirituelle, et elle est bonne. La loi de Dieu, c'est quoi? La loi de Dieu exprime quoi? Elle exprime le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu, la volonté de Dieu. Donc la loi en elle-même n'est pas une malédiction. Donc comment est-ce qu'il faut saisir cela? Regardons bien comment Paul dit. Il dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui cherchent à utiliser la loi ou à obéir à la loi pour plaire à Dieu, eh bien, sont sous la malédiction de Dieu. Et pourquoi cela? Bien, parce que, à cause des déclarations de l'Écriture sur ceux qui n'observent pas la loi de Dieu. Qu'est-ce que dit l'Écriture? L'apôtre Paul dit, tous ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit. Donc c'est à cause de quelque chose qui est écrit dans la Bible, c'est à cause de l'Écriture. Qu'est-il écrit? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Donc l'apôtre soutient ici son affirmation de malédiction sur tous ceux qui s'attachent à la loi en citant Deutéronome chapitre 27, verset 26. C'est-à-dire toute la section que nous avons là, chaque chose que l'apôtre Paul dit, il vient le soutenir par un verset de l'Écriture. Donc c'est important de voir cela. Il dit, ce qu'il dit ne vient pas de son cerveau. Ce n'est pas une nouvelle chose qu'il amène à la lumière. C'est quelque chose qui est déjà dans l'Écriture que les Juifs connaissaient particulièrement. Et donc Deutéronome chapitre 27, verset 26 dit ceci, 27 verset 1 dit déjà, « Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. » Et puis, verset 27, il est dit, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen ». Alors là, c'est un événement extrêmement important de la vie du peuple. Si vous lisez Deutéronome chapitre 27, vous allez voir qu'il y avait, on avait les 12 tribus d'Israël, il y avait 6 tribus sur le mont Garizim, 6 tribus sur le mont Ebal. Les tribus qui étaient sur le mont Garizim les Lévites devaient prononcer les bénédictions, et puis ceux qui étaient sur le mont Ebal prononçaient les malédictions. Et à la fin de chaque chose prononcée, la Bible dit que tout, et le peuple dit Amen. Et le verset 26 que nous avons lu vient clore tout cela. Et puis, alors, il y a des choses particulières qui sont dites, pour lesquelles il y a eu des malédictions. Et puis, le verset 27 vient clore tout cela en disant, « Maudit soit quiconque n'accomplit point les paroles de cette loi. » Autrement dit, toutes les paroles qu'ils ont entendues avant et pour lesquelles ils ont dit « Amen », il dit, « Quiconque n'accomplit pas ces choses, eh bien, qu'il soit maudit. » Alors, bien sûr, l'apôtre Paul dit, dans sa citation, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. » Vous direz peut-être, si vous avez lu, mais le verset 27 dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de la loi. » Il n'y a pas le tout, mais si vous lisez au verset 28, verset 1, il est question de tous les commandements. Et donc c'est vrai que le sens est là avec le verset, chapitre 28, verset 1. Paul donc donne cette citation pour dire que la loi fait reposer une malédiction sur quiconque n'observe pas tout ce qui y est écrit. Alors, il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'observer à peu près la loi, de l'observer à 99,99%. D'accord? Quand on corrige des copies d'élèves, par exemple, eh bien, des fois, on dit, voilà, 20 sur 20 pour celui qui a tout bien fait. Mais bon, il arrive qu'un étudiant fasse quasiment tout bien. Il fait une petite erreur, mais dans un truc minime, qui n'est pas rédhibitoire, et puis qui sera même pas grave pour après. La copie est tellement belle, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah non, quand même. On met 20. Pourquoi mettre 19,9? C'est pareil que 20. Et on pourrait penser, que pour la loi de Dieu, c'est comme ça. Ben, j'observe peut-être pas tout, mais en fait, je fais tous mes efforts, et d'accord. Bon, pour l'instant, je mens encore un petit peu, mais pour le reste, voilà. Et Dieu peut pas ne pas accepter cela. Je me souviens, quand on avait fait un programme, je sais plus si c'était Noël l'année dernière ou Pâques, il y avait quelqu'un qui était dans la salle, qui visitait, qui disait, mais comment? Mais Dieu ne peut pas ne pas prendre compte de tout ce que j'ai fait. Je fais beaucoup de bien. Et il peut pas ne pas prendre cela en compte. L'apôtre Paul dit ici, l'Écriture dit ici, maudit soit quiconque n'observe pas tout. Et quand il dit cela, ça veut dire qu'il faut l'observer parfaitement, qu'il faut l'observer complètement et qu'il faut l'observer constamment. Et qui peut observer parfaitement, complètement et constamment la loi de Dieu? Peut-être on a fait des efforts. Allez, soit, chiche comme on dit. Vous avez réussi à tenir pendant un mois, deux mois, trois mois, et puis à marcher droit. Et puis, un petit truc passe, voilà, vous vous mettez en colère une fraction de seconde, on vous dit quelque chose, une fraction de seconde, sur trois mois. vous n'avez pas observé parfaitement. Et donc, on est maudit. C'est ça que dit l'Écriture. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et le sens d'observer ici, qu'on trouve en Galates 3.10, c'est celui de persévérer dans quelque chose. On trouve cela ailleurs dans Actes 14, versets 21-22. Par exemple, quand il est dit que les apôtres ont évangélisé une ville, ensuite il y a eu un certain nombre de disciples dans cette ville-là, et ils retournèrent, dit l'Écriture, à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Ça veut dire demeurer continuellement dans la foi. Donc quand il dit ici d'observer tout le commandement de Dieu, c'est d'y rester attaché et d'y persévérer continuellement et totalement et parfaitement, sans jamais, jamais, jamais faillir une fraction de seconde. Qui peut faire cela? Donc la loi doit être observée de cette manière-là. Sinon, eh bien, dit l'Écriture, la malédiction repose sur quiconque n'accomplit pas de cette manière la loi, et le jugement de Dieu demeure sur quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Et tous les hommes sont concernés ici, les juifs et les non-juifs. Et Dieu prononce donc une malédiction sur tous ceux qui ne l'observent pas, n'observent pas sa loi ici continuellement. C'est ce que Jacques dit, rappelez-vous de ce que Jacques disait, je ne sais pas si j'ai mis la référence ici, mais il dit, Jacques 2.10, il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, pêche devient coupable de tous. » Il dit qu'il y a une unité dans la loi de Dieu. On ne peut pas dissocier les commandements, ici et là, puis dire « Voilà, on fait une moyenne, j'ai 9 sur 10, c'est pas mal quand même. » Non, il dit que c'est un tout. Pécher contre un, c'est pécher contre tous. Et je ne peux pas m'approcher de Dieu en disant « Seigneur, voilà ce que j'ai fait. D'accord, le 9e commandement, j'y arrive pas encore trop, mais tu devrais être content parce que j'arrive avec 9 sur 10. » Non, pécher contre un seul, c'est pécher contre tous. Parce qu'il y a une unité dans la loi de Dieu. Alors la malédiction repose sur tous ceux qui cherchent une justification par les œuvres, bien parce que l'Écriture affirme que quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit est maudit. Mais l'apôtre Paul va plus loin, il dit, et nul, regardez verset 11, dans notre passage, Galates 3, verset 11, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et donc, il dit qu'il y a une malédiction qui repose sur quiconque observe, cherche une justification par les œuvres, par l'observation de la loi, parce que l'Écriture déclare l'exclusivité de la justification par la foi. L'Écriture dit que le juste vivra par la foi. Et cette fois-ci, l'apôtre Paul cite le prophète Habacuc. Habacuc chapitre 2 verset 4 dit « Le juste vivra par la foi ». Et ce verset est cité encore à deux autres endroits dans le Nouveau Testament. Hein, si vous voulez noter Romains 1, 17 et puis Hébreux 10, 38, vous pouvez le lire après. Et donc ce qu'il dit ici, hein, Paul, c'est que ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi ne sont pas justifiés, parce que l'Écriture affirme que ceux qui sont justifiés sont ceux qui croient. Le juste vivra par la foi. Parce que on pourrait dire, les gens pourraient dire, oui, bon, d'accord. On est d'accord, l'Écriture dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Mais c'est ceux qui n'observent pas tout. D'accord? On peut penser peut-être que, quelque part, on y arrive. L'apôtre Paul dit, mais non seulement cela, l'Écriture affirme aussi que c'est par la foi que l'on est justifié, donc affirme l'exclusivité de la foi en matière de justification. Et c'est ce qu'il dit quand il dit « Et que nul ne soit justifié par les œuvres de la loi », cela est évident. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'Écriture affirme que le juste vivra par la foi. Et donc, on ne peut pas être justifié par la loi. Elle n'a jamais été donnée pour la justification. L'apôtre Paul avait déjà énoncé cette vérité plus tôt dans le passage, dans Galates 2:16, je vous lis, il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Et puis il dit, alors nous aussi, en parlant nous les Juifs, qui avons eu cette loi, qui sommes les dépositaires de la loi de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Parce que quelque part, les Juifs pouvaient penser, mais les païens, oui, peut-être qu'ils... Mais nous, nous sommes les Juifs, les descendants d'Abraham, nous avons reçu la loi de Dieu, nous cherchons, nous l'observons. Rappelez-vous de cet homme qui priait, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce pharisien injuste, etc. Je fais ceci, je fais cela. Et il voulait présenter à Dieu sa justification par tout ce qu'il observait. Rappelez-vous de cet homme qui vient voir Jésus, et puis Jésus lui dit... comment il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà, encore une fois, on apporte ce qu'on en a observé comme justification devant Dieu. L'apôtre Paul dit, mais même nous, Juifs, il dit ça à Pierre dans le reproche qu'il lui fait dans Galates 2, il dit, même nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et combien cette vérité est importante, chers frères et sœurs. Même si la loi indique que celui qui fera ces choses, il dit ça, on va le voir après, vivra par elles, en réalité, il n'y a pas pour l'homme pécheur un autre chemin que la foi pour être juste, la foi en Christ seul pour être justifié. La justification par la foi exclut toute justification par la loi. Il n'y a pas de justification par la loi, parce que la Bible dit que c'est par la foi que le juste vivra. Le juste vivra, il déclare qui c'est qui est juste. Et il dit que c'est par la foi qu'il vivra. Ainsi, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de l'Écriture, parce que l'Écriture affirme qu'ils sont maudits s'ils n'observent pas parfaitement et complètement tout ce qui est dans le livre de la loi. Et ceux qui s'attachent à la loi ne l'ont pas accompli parce que l'Écriture déclare que ce sont les justes qui sont justifiés. Donc, les justes, pardon, sont justifiés par la foi. Et donc, ceux qui observent la loi ne sauraient être justifiés devant Dieu de cette manière-là. Et puis, l'apôtre Paul va encore un tout petit peu plus loin, verset 12, regardez ce qu'il dit. Troisième volet, on pourrait dire, de son argumentation. Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit... Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il dit, il y a une différence entre la loi et la foi. Si vous lisez Romains chapitre 10, l'apôtre, il dit la même chose. Il dit, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la foi. Hein. C'est assez intéressant de voir comment il dit les choses. Mais ici, l'apôtre Paul dit, la loi ne procède pas de la foi. D'accord ? La loi ne découle pas de la foi. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer, c'est ce qu'il disait verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On pourrait dire, après avoir cru, mis votre confiance en Jésus-Christ, commencer par la foi, voulez-vous maintenant continuer par les œuvres. Et parfois, on peut être ainsi dans la vie chrétienne. Oui, je crois en Jésus-Christ, j'ai sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais on cherche à gagner en faisant beaucoup, hein, à être accepté, à être vu par Dieu en faisant beaucoup. Hein. Et on dit, voilà, Dieu répond à mes prières, Dieu me bénit parce que je fais ceci ou je fais cela. Pas du tout. La vie chrétienne se vit aussi par la foi, le salut est par la foi, mais la vie chrétienne aussi se vit par la foi. Et la Bible, l'apôtre Paul dit ici que la loi ne procède pas de la foi, elle ne vient pas de la foi. Ce sont deux choses qui s'excluent mutuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a la vie par la foi, on peut voir, et puis aussi la vie par la loi. Qu'est-ce que dit l'Écriture ? Il dit que la loi, elle dit, celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elle. Et c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, il y a moyen pour celui qui est capable d'accomplir toute la loi de Dieu parfaitement, constamment et complètement, de vivre par cette loi. Seulement, qui peut le faire? Personne. Personne. Et c'est ce qu'exige la loi. La loi dit, celui qui accomplit toutes ces choses vivra. Et mais la foi dit quoi? La foi dit celui qui reçoit cette vie qui a été vécue d'accomplissement de la loi en Jésus-Christ, eh bien, il vivra. Celui qui croit vivra. La loi dit celui qui fera vivra. Sauf que nous sommes incapables de faire. Et Paul dit ici que la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Et c'est encore là une citation du Lévitique chapitre 18. Je vous ai dit beaucoup de citations. Lévitique chapitre 18 versets 4 et 5, je vous lis. Il dit « Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui mettra en pratique, qui les mettra en pratique, vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Ici. Donc notons que la loi promet aussi la vie. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ce que Jésus dit à ce docteur de la loi qui vient le voir pour l'éprouver, qui lui dit, Maître, en Luc chapitre 10, verset 25, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc Jésus le renvoie à la loi. Et qu'est-ce qu'il dit dans la loi? Il dit, la loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Qu'est-ce qu'il ajoute? Fais ceci. Et il dit, fais cela et tu vivras. C'est exactement ce que dit la loi. Fais-le et tu auras la vie. Seulement, la loi dit ce qu'il faut faire. Mais ne donne pas le moyen de le faire, ne donne pas la puissance pour le faire. Et c'est en cela qu'elle nous condamne. L'apôtre Paul dit la même chose. Il dit que la loi a révélé, en Romains chapitre 7, le péché. Il dit, je n'eus pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et il dit, une fois que la loi dit, tu ne convoiteras point, eh bien, c'est là qu'il voit qu'il est attiré vers ce que la loi condamne. Ainsi, il dit, ainsi le commandement qui pour moi devait me mener à la vie me mène à la mort. Parce que je ne peux pas, à cause du péché qui est en moi, accomplir cette loi parfaite, sainte et bonne de Dieu. Alors bien sûr, la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra. Seulement personne ne peut le faire. Et il n'y a pas de procédé qui part de la foi jusqu'à la loi. Ce sont deux choses différentes, dit Paul. La loi ne procède pas de la foi. Et donc la différence entre les deux réside dans le fait que la foi promet la vie à celui qui croit et la loi promet la vie à celui qui agit parfaitement. Et c'est pas possible de le faire. La foi affirme que Dieu seul peut justifier, alors que la loi implique que l'homme doit faire tous ses efforts pour y arriver. Donc il doit trouver en lui-même les ressources pour y arriver. Et ce qui est bon, je le sais, dit l'apôtre Paul, n'habite pas en moi. La loi est bonne en ce qu'elle nous fait voir, bien sûr, la sainteté de Dieu et ce qui est juste et bon à ses yeux. Elle est l'expression, on l'a dit, de sa volonté, de sa nature morale, mais elle est une malédiction en ce qu'elle nous condamne sans aucun espoir pour nous d'échapper au jugement de Dieu. Elle montre ce qu'il faut faire pour avoir la vie, mais elle condamne quiconque emprunte ce chemin-là pour avoir la vie. Et ce que l'apôtre Paul dit, ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Le commandement qui me dit ce que c'est que de vivre conformément aux yeux de Dieu, si je l'emprunte, eh bien, il me conduit à la mort. Après, il ajoute, mes grâces soient rendues à Dieu. Et c'est ce que là, il fait aussi dans ce passage. Il dit, il n'y a pas de mais, mais il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà pourquoi nous, dimanche après dimanche, semaine après semaine, nous venons ensemble et nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons fait même autour de cette table ce matin. Il arrive donc, je pourrais dire ici, à son point principal. Deuxièmement, donc la bénédiction d'Abraham, dit-il, s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il avait montré premièrement que la malédiction repose sur quiconque cherche une justification par ses œuvres, mais que la bénédiction d'Abraham est accordée à quiconque vient à Christ par la foi. Et donc, c'est l'effacement, ici, on pourrait dire, de la condamnation par Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrés par le paiement d'une d'un prix, hein, d'une rançon. Hein. Donc, on est délivré de la malédiction de la loi par le fait que Christ a payé le prix nécessaire à cette délivrance. Christ nous a donc délivré de la malédiction de la loi. Et on trouve ce fait qu'on a été racheté dans beaucoup d'autres passages, on ne prendra pas le temps de le lire, mais dans 1 Corinthiens, dans Marc chapitre 10, Saint Timothée 2, que ce fait que Christ nous a racheté, a payé pour nous le prix qui exigeait pour notre salut. Donc la malédiction de Dieu, hein, que la loi fait peser sur tout homme pécheur, tout homme désobéissant, eh bien Christ nous en a racheté. Dit Paul ici, il a payé ce prix et pour que nous puissions avoir cette délivrance. Mais comment est-ce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi? Est-ce qu'il est allé dans son coffre-fort, il a pris une grosse somme d'argent et puis il a donné à son père et puis il dit voilà, ces hommes maintenant ils sont délivrés. Je paie le prix de la rançon. Est-ce que la malédiction disparu parce que Dieu a changé et puis décide de ne plus exercer son jugement? Pas du tout. Hein. La malédiction ne disparaît pas car Dieu dit ici, elle ne disparaît pas parce que Dieu a changé d'avis, parce qu'il dit, voilà, je ne vais plus prendre en compte ces faiblesses des hommes, je vais regardez quand même les efforts qu'ils font, hein. Un peu comme dans Amos, parce que dans Amos, il me semble, hein, où le prophète dit à Dieu, regarde Jacob, comment il est faible à chaque fois, plusieurs fois, hein. Il pousse Dieu à regarder la faiblesse, hein, pour avoir de la compassion, de la miséricorde. Non, le texte nous dit ici que l'effacement de la condamnation par Christ est obtenu parce que Christ est devenu malédiction pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire beaucoup réfléchir. Christ est devenu malédiction pour nous. La malédiction sous laquelle je ne suis plus, parce que je suis en Christ, eh bien, elle a été, Christ a été fait malédiction pour nous. Et Paul soutient cette vérité en citant le texte de Deutéronome 21, encore versets 22 et 23. Il dit, vous avez été rachetés, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Et pourquoi il est devenu malédiction pour nous? Parce que dans le texte biblique, dans le Deutéronome, il est dit, je vous cite, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. » Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Alors, vous pouvez dire, mais là, il est question d'être pendu au bois, pas à la croix. Mais dans l'Écriture, c'est équivalent. L'apôtre Pierre, dans son sermon, rappelez-vous, dans son sermon, il dit que le Dieu de nos pères, Actes 5:30, a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois, hein, ici. Et donc l'apôtre Paul dit que celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et il cite donc le passage de Deutéronome 21 pour le dire. Et dans son commentaire sur ce texte, le docteur John MacArthur fait remarquer ceci, il dit, dans le judaïsme ancien, quand on exécutait un criminel habituellement par lapidation, on le pendait ensuite son corps à un poteau ou un bois, on le laissait là jusqu'au coucher du soleil, comme signe visible de son rejet par Dieu. Il dit, ce n'est pas qu'il était maudit par le fait d'être pendu au bois, mais on le pendait au bois parce qu'il était maudit. Vous voyez la différence? Et donc, il dit, Jésus n'est pas devenu malédiction parce qu'il a été crucifié, mais il a été crucifié parce qu'il est devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire Dieu l'a fait devenir pour nous malédiction. Et parce qu'il était l'objet de la malédiction du Père, il a été cloué et crucifié à la croix. Comme signe qu'il a été, il est devenu pour nous malédiction. Et le rejet du Messie par les Juifs tient en partie à ce fait. Au fait que, pour eux, le Messie ne pouvait pas être l'objet de la malédiction de Dieu. Ce n'est pas possible. Un Christ cloué à la croix, un Messie cloué à la croix, c'est à coup sûr qu'il est maudit. Et donc, il ne pouvait pas être. C'est pour cela qu'ils l'ont rejeté. Mais l'apôtre Paul dit, voilà comment nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Parce que Dieu le Père a fait pour nous son Fils devenir malédiction. Et ailleurs, il dira la chose autrement. Rappelez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il ne dit pas que Christ a péché. Christ n'a jamais péché. Mais il a fait devenir péché. Donc quand il était sur la croix, c'est comme si vous et moi, nous étions. Il a été traité comme nous aurions dû être traités. Il a été traité comme s'il était véritablement un pécheur. Il a fait devenir pour nous péché. Et il est important de saisir cela parce que nous, lorsque la justice de Dieu nous est imputée, ce n'est pas parce que nous avons vécu justement, on pourrait dire, mais c'est parce que Dieu nous a fait devenir justice en Jésus-Christ. C'est là le grand échange, voyez. C'est-à-dire que lui, il est devenu malédiction pour nous, il est devenu péché pour nous, il a été traité comme si il était un pécheur, condamné, abandonné par Dieu. Mais nous, eh bien, nous sommes traités maintenant comme si nous étions juste, et nous sommes déclarés justes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, celui qui est déclaré juste, celui qui maintenant se saisit par la foi de l'œuvre qui a été accomplie à la croix du calvaire. Nos péchés sont imputés à Christ, mais ça c'est qu'une partie de la justification. Sa justice, sa vie juste, parce que lui est le seul qui a obéi parfaitement, complètement et continuellement à toute la loi de Dieu. Et donc lui a pu vivre une vie juste. Et c'est cette vie juste qui nous est imputée. Il ne faut pas oublier, c'est une double imputation qu'il y a ici. Nos péchés lui sont imputés, mais sa vie juste nous est aussi imputée lorsque nous saisissons par la foi. Et c'est cela que l'apôtre Paul appelle la justice de Dieu. Il dit que les Juifs cherchent, en Romains chapitre 10, leur propre justice, ne connaissant pas la justice de Dieu. Quand ils prient, rappelez-vous, en Philippiens chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi. La justice, comment? De qui? De Dieu. La justice de Dieu, c'est le sacrifice de Christ, le fait que Christ est devenu malédiction pour nous à la croix du calvaire. Le fait que par la foi, eh bien, on peut s'approprier cette vie nouvelle qu'il offre. Ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé, mais c'est par la foi dans ce que Christ a fait. C'est ce que l'apôtre Paul développe ici. Il dit, donc Christ a été fait pour nous malédiction parce qu'il a écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Il a été l'objet de la malédiction. Rappelez-vous, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert cette séparation d'avec le Père. L'abandon de la part de son Père. Mais aussi, dit l'apôtre Paul, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, quel est le résultat qui est cherché dans tout cela, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, c'est-à-dire pour nous qui sommes des païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? On peut voir ce que Paul en dit au verset 8, déjà de notre chapitre 3. Il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Galates 3, chapitre 9, il dit ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et on comprend que cette bénédiction, c'est la réalisation de la promesse faite déjà dans la Genèse à Abraham, de la promesse de bénir ceux qui croiront en Dieu comme Abraham. Cette bénédiction s'accomplit seulement en Jésus-Christ, c'est-à-dire en s'appropriant l'œuvre que Christ a accomplie par la foi et pas en fournissant nos propres œuvres. On ne peut pas recevoir de bénédiction en présentant à Dieu nos propres œuvres. Cette bénédiction concerne l'Esprit. Regardez ce qu'il dit ici, hein. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui se mouvèrent au-dessus des eaux à la création. L'Esprit, la Bible dit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'Esprit de sanctification, l'Esprit de vérité. La troisième personne de la Trinité dit, afin que nous reçussions cela par la foi. Et donc, la bénédiction concerne l'Esprit, hein, qui est donné aussi comme gage de la rédemption future. Éphésiens 1, 13 dit ceci, hein, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et donc, qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? Essayez d'imaginer, si vous deviez réfléchir, mais c'est quoi l'abbé? C'est cette présence de Dieu, cette faveur de Dieu et la communion avec Dieu. C'est ça la bénédiction suprême. Lorsque Dieu dit à Moïse, de bénir le peuple, en Nombre chapitre 6, versets 22 et 27, regardez ce verset, Nombre chapitre 6, versets 22 et 27, nous lisons ceci. Nombre chapitre 2, verset 22, chapitre 6, pardon, verset 22 et 27, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Nombre chapitre 6, verset 22 et 27, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Alors, c'est important quand Dieu dit, voilà, comment est-ce que Dieu bénit? Vous leur direz, et voilà la bénédiction, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ah, c'est ça la bénédiction de Dieu. C'est que sa face, hein, qu'il fasse luire sa face sur son peuple, qu'il accorde sa grâce, qu'il tourne vers eux sa face, voir la face de Dieu. Et rappelez-vous, la seule fois où Jésus a appelé Dieu, non pas mon Père, mais mon Dieu, c'était où? À la croix. Et qu'a-t-il dit à ce moment-là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le psaume 22, il est dit, pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? C'est l'instant où Dieu a tourné sa face. C'est l'instant de la malédiction. Il subissait à cause de nous la pleine malédiction. Être béni de Dieu, c'est être dans cette communion de face, on pourrait dire, avec Dieu. Et puis notons enfin que c'est par la foi en Christ, ce que dit l'apôtre Paul, que cette bénédiction s'obtient, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc la bénédiction d'Abraham s'obtient par la foi en Jésus-Christ, pas par la foi toute seule. La bénédiction n'est pas dans la foi en elle-même. La foi en elle-même ne sauve pas. Je dis, mais j'ai la foi. Ça ne sauve pas d'avoir la foi. Hein? Il y a des gens qui font des crimes et des attentats avec la foi. Ils croient profondément en ce qu'ils font. Ce qui sauve, c'est l'objet de la foi. En quoi je mets ma foi? Celui qui offre des œuvres, il met sa foi dans quoi? Dans les œuvres. Il croit que c'est ainsi qu'il va être. Il a la foi, mais dans ses œuvres. Mais celui qui met sa foi en Jésus-Christ, sur ce que Jésus-Christ a accompli, celui-ci, eh bien, exerce une foi qui est salvatrice. Donc ce n'est pas simplement la foi. L'apôtre Paul dit ici que nous ressuscions, quand il dit par la foi, sous-entend par la foi en Jésus-Christ. Il a déjà dit que c'est l'accomplissement en Christ, qu'on reçoit l'Esprit qui avait été promis. Et cet Esprit, c'est le gage de la présence de Dieu. Lorsque Jésus s'en va, qu'il quitte ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, vous ne recevrez pas l'Esprit qui a été promis, afin qu'il soit avec vous, comment? Éternellement. C'est le gage de la présence éternelle. La bénédiction des bénédictions, c'est de connaître Jésus-Christ et Dieu, de recevoir son Esprit et d'être dans cette communion profonde avec lui. Et cela est possible parce que Dieu fait malédiction pour nous. Jésus-Christ, son Fils, qui a pris sur lui nos péchés afin que nous puissions avoir en retour sa vie. Et je termine avec quelques points d'application, chers frères et sœurs. Le péché ne doit jamais être pris à la légère. Le péché ne doit jamais être pris à la légère. Paul en parle avec le terme de malédiction de Dieu. C'est, on pourrait dire, c'est le sentiment de Dieu ici à l'égard du péché. Il y a une malédiction qui tombe sur quiconque pêche. Le péché, la transgression de la loi. L'homme ne doit jamais croire que le péché est une peccadille. C'est pas grave, c'est, oui, c'est pas, j'ai pas péché, c'est juste un petit moment de, juste un petit accès de colère, juste un petit, non! Quelqu'un faisait, un prédicateur du 19e siècle, du nom de Monod, faisait remarquer ceci dans un message qu'il a appelé le péché, et il a appelé plutôt le péché, la peccadille d'Adam. Hein? Il dit, vous dites que le péché est une peccadille. Il dit, qu'est-ce qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden? Il n'a pas commis l'adultère, il n'a pas volé quelque chose. Ils ont juste mangé un fruit, juste désobéi à un ordre. Ça paraît rien quand même. Hein? Ça paraît rien. Mais il dit ceci, il dit, un petit péché, c'est une contradiction dans les termes. C'est comme si l'on parlait d'une énormité légère ou d'un attentat insignifiant. Vous voyez, un attentat, c'est un attentat. Peu importe s'il y a une personne qui est morte ou 100 personnes, c'est un attentat et c'est grave. D'accord? Il dit, le péché, c'est le péché. Le péché ne doit pas être mesuré à sa taille, mais ou à sa manifestation. L'adultère par rapport au mensonge ou, je ne sais pas, la colère par rapport à autre chose. Mais le péché doit être mesuré par ses conséquences. Et pensez aux conséquences du péché commis dans le jardin d'Éden. La création en a souffert. La relation entre les hommes. La rupture de la communion avec Dieu. La nécessité de l'incarnation. D'une vie de souffrance de Christ. De sa mort. Que la deuxième personne de la Trinité devienne malédiction pour nous. Ça, c'est la conséquence du péché. Le péché ne doit jamais être pris même dans notre vie de tous les jours à la légère, parce que Christ a payé un prix exorbitant pour nous en délivrer. Et quelle chose étrange que de voir des chrétiens qui professent appartenir à Christ être inconséquents avec le péché, flirter avec le péché sous toutes ses formes, dans ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on dit, dans la manière de tenir les relations avec les autres, dans nos paroles. Ces choses, cette chose devait nous faire profondément réfléchir. Et puis deuxième chose que je voudrais dire comme application, c'est que nous devons renoncer à tout orgueil qui consiste à nous justifier devant Dieu par nos œuvres. D'accord ? Dans notre vie chrétienne, même si vous n'êtes pas encore au Seigneur, dans l'espérance du salut, n'essayons pas de gagner la faveur de Dieu par notre assiduité. Je suis là tous les jours, ou par notre service, ou par le fait qu'on prêche, ou qu'on chante, ou qu'on joue de la musique, ou qu'on distribue des traités, ou qu'on évangélise. Si nous cherchons dans ces choses la faveur de Dieu, nous sommes comme ces personnes qui cherchent la justification par les œuvres. De même que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous devons vivre aussi par la grâce de Dieu. Chaque pas, dit le cantique, que nous faisons, c'est en vertu de la grâce de Dieu. Chaque fois que nous pouvons donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas parce que c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, c'est parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Et nous devons savoir que nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Christ seul, mais nous devons vivre aussi de cette manière-là. Nous ne devons jamais nous approcher de Dieu en disant, oh Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, regarde, je ne peux pas. Non, on s'approche de Christ en vertu de l'œuvre qui est accomplie. Quand Dieu regarde, c'est Christ qu'il regarde. Et c'est sous couvert de ce que Christ a fait, et uniquement de ce qu'il a fait, que nous devons nous approcher de Dieu. Et donc, ne comptez pas sur nos efforts dans quelque domaine qui soit. Parfois, on dit, mais tiens, tel jeune ou tel, pourquoi n'es-tu pas encore baptisé ? Il dit, ben, j'attends d'être. C'est une marche par les œuvres. Je crois qu'il faut que je sois capable d'apporter à Dieu un certain nombre de qualités de vie, de choses faites pour pouvoir obéir à son commandement. Je marche par les œuvres. Parfois, on dit, ben, il y a des choses que je ne comprends pas, alors tant que je n'ai pas compris, je n'obéis pas. On veut apporter l'œuvre de notre intelligence, notre capacité à comprendre les choses. C'est une marche par les œuvres. On n'est pas reçu devant Dieu par nos œuvres, mais uniquement par la foi. Donc, rejetons tout orgueil qui consiste à nous justifier de quelque domaine que ce soit, de quelque manière que ce soit devant Dieu, par nos propres œuvres. Et puis, dernièrement, la plus grande, chers frères et sœurs, des bénédictions, c'est d'avoir la faveur de Dieu et de jouir de sa communion. Être béni, ce n'est pas avoir un travail. Être béni, ce n'est pas avoir une maison. Être béni, ce n'est pas être marié. Être béni, ce n'est pas avoir des enfants. Ou être béni, peut-être, ce n'est pas être libéré de son mariage, parce que parfois, on peut penser qu'il y a plus de joie là-bas qu'ailleurs aussi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de non-croyants ont ces choses. Ont des enfants, une femme, gentille, etc. Non. Être béni, ce n'est pas réussir à son examen de passesse ou autre. C'est une bonne chose, on sera content. Ça fait partie, toutes ces choses font partie, on pourrait dire, hein, des choses que Dieu peut nous accorder. Il nous donne par-dessus. Mais la bénédiction des bénédictions, celle pour laquelle la deuxième personne de la Trinité a quitté la gloire éternelle pour s'incarner, venir, vivre, mourir, ressusciter sur cette terre, c'est pour que nous puissions avoir la faveur et la communion de Dieu. La bénédiction consiste à avoir cette faveur de Dieu, de jouir de sa communion. Car sans cela, on est maudit. À tout jamais. Sans cela, on est maudit à tout jamais. Voici donc quelle doit être la joie du croyant. Dans quoi il doit se réjouir? Dans quoi il doit se glorifier? Dans quoi il doit nourrir son espérance? Certes, dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ça nous pousse à adorer notre Seigneur de tout notre cœur, à rechercher encore à jouir plus profondément de cette bénédiction qui est la nôtre. Et si ce matin vous êtes là, vous ne connaissez pas, eh bien le texte dit ici que la malédiction repose sur quiconque n'a pas Christ, en fait. C'est ce qu'il dit. Il dit malédiction pour tous ceux qui cherchent à se justifier par ses propres moyens, mais tous ceux qui ne cherchent pas à placer leur confiance en Jésus-Christ sont sous cette malédiction. Et si elle arrive et que vous mouriez avant d'avoir mis votre confiance en Jésus-Christ, c'est la damnation éternelle, la malédiction éternelle. Donc tant que nous vivons, le frère l'a dit tout à l'heure, hein, je crois que dans ce passage, qu'il a un texte qu'on a lu, hein, le salut, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, mais tournez-vous vers Christ, qui a été fait pour ceux qui croient, malédiction de Dieu, afin que l'accomplissement de la promesse, de la bénédiction d'Abraham ait lieu en Christ, et que par la foi, ceux qui croient en Christ reçoivent l'Esprit qui fait d'eux à tout jamais un enfant de Dieu et leur permet de vivre cette merveilleuse bénédiction. C'est-à-dire avoir la faveur de Dieu à tout jamais et pouvoir jouir pleinement de sa communion. Que le Seigneur nous aide à considérer pleinement ces choses. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et que ton esprit nous aide encore à méditer plus profondément ces choses. Merci pour le sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Nous ne sommes dignes d'absolument rien. Tu as tout fait. Tu as tout accompli. Et Seigneur, tu nous fais la grâce de te connaître. La grâce de jouir de ta présence en nous offrant toi-même la justice. Ô Seigneur, que nos cœurs te louent. Et nous te prions pour les personnes qui ici ce matin ne te connaissent pas, afin qu'elles puissent se tourner vers toi, que tu les attires dans ta grâce et qu'elles puissent faire partie des enfants d'Abraham, de ceux qui croient. Et je te prie pour que tu nous préserves de tout orgueil que nous pouvons développer en voulant nous-mêmes faire ou comprendre tout ce que nous voulons t'apporter comme justification. Seigneur, donne-nous simplement de croire en ta parole, d'obéir, oui, de chercher à te connaître davantage, mais de nous soumettre vraiment à l'œuvre, à ce que tu as déjà accompli, de l'accepter dans une attitude d'humilité pour la gloire de ton nom. Amen.